بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Je vais peut-être faire une bêtise, mais je vais pas respecter le programme. J'ai envie de finir. Ah, c'était prévu que je fasse un autre sujet. Depuis tout à l'heure, j'ai pris désespérément vers là-bas afin de voir un responsable. J'ai pas réussi à en avoir un. Donc, je me lance. Je vais faire comme vous êtes. Il fait ce qu'il veut, alors je fais comme vous êtes. Donc, j'ai envie de finir. Comme on dit, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Ou bien pendant qu'il est encore chaud. Inch'Allah, le dars qui était prévu ce soir, on le fera demain, bi'idhnillah. Donc, on est toujours dans l'apprentissage du Coran. Mohim hada, mohim jidda. C'est très important, mes frères. On apprend, ça ne veut pas dire négliger deux choses. Ne pas négliger la lecture quotidienne et ne pas négliger la révision. Ne pas négliger la lecture quotidienne et ne pas négliger la révision. Et là, je répète, je m'adresse à des toulab ilm, des gens qui ont la himma, l'enthousiasme et la motivation d'atteindre les hautes sphères. Donc, mes frères, vous remarquez que nos pères, quand je dis nos pères, je parle des kibarsin, des gens qui sont âgés. Ces gens qui ont grandi une longue partie de leur vie, donc dans leur pays d'origine, et qui se sont installés donc en France, et qui y vivent pour la plupart d'entre eux toujours. On remarque, غالباً, wal hadith huna, ala sabil il ghalab. Là, on parle en général. Qu'ils finissent le Coran une fois par an. Tilawat. En lecture, on remarque qu'ils finissent le Coran en moyenne une fois par mois. Alladhi yaltazimu. Alayhissalam. Alladhi yaltazimu biqira'ati juz'in wahidin yawmiyan yasilu ila tamam ash-shahri wa huwa yakhtimu tilawata al-Qur'an. Celui qui s'impose la lecture d'un juz, un juz c'est deux hisb. Quotidiennement, tous les jours, à la fin du mois, il a fini le Coran en lecture. وكم تستغرق تلاوة جزء من حيث الوقت. Combien de temps la lecture d'un juz, yani deux hizb, prend-elle? Au maximum en lisant lentement une demi-heure. Au maximum en lisant lentement une demi-heure. أليس لديك يا عبد الله نصف ساعة يوميا تنفقها في سبيل الله وأنت تتلو كلام الله. N'as-tu pas, ô mon frère, au minimum dans la journée une demi-heure à dépenser pour Allah tabaraka wa ta'ala de lire le Coran? Wallah, ce qui est désolant et affligeant quand le mois du Ramadan arrive et que tu vas voir les frères de la sunna, walhamdulillah, pour te motiver en sachant combien de fois ils ont déjà fini le Coran alors qu'il ne nous reste plus qu'un tiers du mois, dernier 10 jours. Les frères, vous avez fini combien? Vous en avez tout? Alors là, il me dit, Ali Imran, de la combien de fois? Il me dit, ben, de la première. Ajib. C'est Ramadan. Il y a le deux tiers du mois qui sont passés. Il en est qu'à Ali Imran. C'est Ramadan. Mais qu'est-ce qu'il lit, dans l'année? Rib, qu'un mois, il passe et que tu n'as pas lu le Coran. Pas entièrement, mais au moins que tu as lu le Coran. Vous vous rendez compte s'il y en a parmi nous qui n'ouvrent pas le mashaf pendant un mois et qui après disent, nous on suit la sunna. Vous vous rendez compte de ça? Si on avait une porte par laquelle on pourrait remonter le temps et arriver chez les salafs, attrape n'importe lequel d'entre eux. Yahya ibn Ma'in, Ali al-Madini, Ayyub al-Sikhtiyani, Rabi ibn Khufaym et غيرهم. Tu dis, Cheikh, ta'al, ta'al. هناك واحد ينتسب إليكم ولا يقرأ القرآن ولو مرة في شهر واحد. Hein? Il y en a un, il prétend vous suivre. يعني les salafs. Et il ne lit pas le Coran pendant un mois, il ne touche pas le mashaf. Hajib had. Hajib had. C'est étonnant quand même. On doit avoir un wird yaoumi. Un wird yaoumi, yani une quantité journalière de Coran à lire. Ça, c'est de la lecture. La lecture, elle ne te prend pas de faculté, d'effort. Ça ne te fatigue pas de lire. Combien d'entre nous, quand ils prennent les transports en commun le matin, pour aller au travail, ils lisent 20 minutes, là, le truc de, qui distribue gratuitement, là? Combien? Combien d'entre nous, il est capable de lire l'équipe? Deux fois de suite. Ah, j'ai pas bien appris les transferts de l'équipe du Real Madrid, là. Hein? Combien d'entre nous, ils passent des heures devant Internet, devant les forums, YouTube et autres bêtises? Des heures. À écrire. LOL. Combien de temps on perd à faire n'importe quoi? Hein? T'as pas le temps d'ouvrir le mashaf et lire un juz 20 pages. T'as pas le temps? Lazim nafsak. Force-toi à lire le Coran tous les jours. Essaye de le finir en lecture entièrement en un mois. Le tariqa est simple. Il y a 5 prières dans la journée. Tu lis 2 pages avant chaque prière et 2 pages après chaque prière. Et bien à la fin de la journée, tu auras lu 2 hizb. Compte. Dans 2 hizb, il y a 20 pages. Il y a 5 prières. 2 fois 5 plus 2 fois 5, ça fait 20. Comment ça te prend de lire 2 pages avant la prière? Comment ça te prend de lire 2 pages après la prière? Pourquoi, au lieu de foncer vers la porte après que la prière elle soit finie, tu restes pas à ta place, tu prends un mashaf et tu lis 2 pages? Alèche. Si t'as pas le temps de lire 2 pages avant la prière, ma'alèche. Iqra arba' safahat ba'da salah. Kadalik, la yastaghdiq waqtan tawila. Si tu n'as pas le temps de lire 2 pages avant la prière, taïb, ben les 4 pages après la prière, après chaque prière, tu as le temps, m'affiche mouchké. Et si on t'appelle dehors, tu dis, attends, j'arrive, je finis ma page, j'arrive. Habitue-toi à faire cela, et tu en récolteras les fruits. L'ahsan, 2 pages avant, 2 pages après. C'est encore plus sahel, plus khafif, plus léger et plus simple. Et après, il y a la muraja'a, la révision de ce que tu as appris. Wa mimma qara'nahu min kutubi ahli al-ilm, anfa'u al-turuq لمراجعة القرآن أن تقرأ ما حفظته في قيام الليل. Et de ce qu'on a lu comme conseil des savants, l'une des meilleures façons de réviser le Coran que tu as appris, c'est de lire ce que tu as appris dans qiyam al-layl, dans la prière de la nuit. Dans la prière de la nuit lorsque les gens y dorment. Comme ça, tu te forceras aussi à te lever et à faire ne serait-ce que rak'atayn la nuit. Et pour tous ceux qui sont d'accord avec les savants qui disent qu'il n'est pas permis de faire plus de 11 rak'at dans la prière de la nuit, eh bien faites-le les 11 rak'at avec le Coran que vous avez appris. Révisez-le. Et si vraiment vous craignez la faiblesse de votre mémoire, il n'y a pas de mal à apprendre le mashaf et de le lire dans la prière. Ça c'est utile et ça aide. Et ne dites pas dans vos têtes que je n'arrive pas à réviser et à apprendre en même temps. Là, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sais pas gérer ton apprentissage et ta révision. Voilà, et mes frères, si on comptait le nombre de mots qu'on dit tous les jours, est-ce que tu as déjà pensé à compter combien de fois tu parles dans la journée? Quand je dis tu parles, en termes de mots. Combien de mots tu dis dans la journée? Eh bien, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait plus que ça. Il a compté combien de fois il respire dans 24 heures. Wallah, j'ai déjà trouvé ça dans un livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il te dit, je ne sais plus comment c'était, mais qu'on respirait tel nombre de fois dans la journée. Imagine-toi. Toute la journée comme ça. Ajib. Ben, combien de mots tu dis dans la journée, toi? Quand tu auras fait le compte, eh ben, enlève les mots qui servaient à rien. Eh ben, dis donc, tu vas en enlever des mots. Il va plus t'en rester beaucoup. Encore plus chez les femmes. Hadith wa la haraj. J'avais lu une étude scientifique, je m'en souviens plus, comme quoi un homme et une femme parlaient presque deux fois plus qu'un homme sur la, dans une journée en termes de nombre de mots, Yann. Combien de mots comme ça, ils ont été prononcés pour rien, qui servaient à rien. Comme il disait Ali radiallahu anhu, قُلْ بِخَيْرٍ تَجْتَنِيهِ أَوْ تَحَلَّى لِلسُّكُوتِ قُلْ بِخَيْرٍ, dis du bien, تَجْتَنِيهِ, tu lui récolteras. أَوْ تَحَلَّى لِلسُّكُوتِ, ou orne-toi du silence. Al-Asma'i disait, rahimahullah, إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةِ فَالسُّكُوتُ مِنْ ذَهَبِ, si la parole est d'argent, ben le silence il est d'or. والنبي قبلهما عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. وفي حديث آخر صححه الألباني رحمه الله من صمت نجا. من صمت نجا. Celui qui se tait, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et qui est meilleur encore que celui-là? C'est celui qui, quand il parle, il dit des choses utiles qui lui sont profitables. Et qu'est-ce qui est plus profitable que le Coran? Et pareil, regardez le nombre d'heures, j'allais dire de minutes, là, d'heures, qui passent dans la journée à des choses qui servent à rien. Combien? De longues minutes, de longues heures. Et là, après tout ce qu'on a dit dans le Coran, vous avez plus ou moins maintenant une idée, des moyens qui vous aideront, qui vous permettront d'apprendre le Coran. Et sachez qu'une des choses qui sont les plus bénéfiques, comme j'y ai fait référence précédemment, vite, c'est la concurrence. Prenez-vous des frères avec qui vous êtes proches et apprenez le Coran ensemble. Et concurrencez-vous. C'est là-dedans qu'il faut concurrencer, mes frères. Comment ça se fait, Ajib, des fois tu vois des frères? Frère, tu connais comment le Hizb? Il dit 3. Ah, mon petit frère, il est petit que toi, il en connaît 6. Sarto. Genre, ça lui fait ni chaud ni froid. Ajib, genre, presque, tu aurais dit, je m'en fiche, ça aurait été la même chose. On a Ajib, subhanallah. Vous vous rappelez du hadith de Omar, radiallahu anhu, toujours il essayait de devancer Abu Bakr. Quel jour il a su que c'était impossible? Quand Rasoul a dit, alayhi sallallahu alayhi, mon compagnon, ramenez de votre argent, de quoi avec on va pouvoir aider l'islam et les musulmans. Omar a dit, ce jour-là, je vais battre Abu Bakr. Il a pris tout ce qu'il possédait et l'a séparé en deux. Il a gardé une moitié pour sa famille et lui, et il a ramené l'autre moitié pour obéir à l'ordre du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est dit, ce jour-là, Abu Bakr ne battra pas. Et Abu Bakr arrive avec quoi? Tout ce qu'il possède. Et le Rasoul lui dit, alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, Allah wa Rasoul. Allah est son messager. Et là, Omar l'a su qu'il ne battrait jamais Abu Bakr. Mais je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je ne vous rassure pas. Abu Bakr et Omar sont morts, radiallahu anhum. Comment se rassurer de leur mort? C'est impossible. Radiallahu anhum. Lakin, des comme eux, il n'y en a plus. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez y arriver. Trouvez des gens qui sont motivés comme vous et apprenez ensemble. Et arrêtez les fausses modesties, les fausses craintes de l'ostentation. Ah non, moi je te dis pas, Harry, moi j'ai peur de mania. Arrête ton blabla là. Arrêtez de vous faire avoir par ces fausses craintes, ces fausses peurs. J'ai des waswas, j'ai peur mania, tout ça. Et arrêtez qui te connaît, qui va faire attention à toi. Arrêtez. On dirait que tu es dans le minbar au haram à Mecca. T'es pas dans t'es à Tourcoing dans ce département ici. 28, non, c'est ça? 59. C'est dans 59, je veux passer quel département. Tu sais qu'il faut faire attention à toi. Vous ne faites pas avoir avec ces fausses, ces vieilles tentatives sataniques dans lesquelles on tombe tous malheureusement. Maintenant, moi, je n'apprends pas ma niya, tout ça, je ne dis à personne. C'est comme une sœur, elle a dit à une autre, ah, moi, je suis en train d'apprendre une sourate. Ah bon, laquelle? Ah non, je ne dis pas ma niya. Ben, pourquoi tu me dis d'apprendre une sourate? Ne le dis pas du tout, et puis c'est bon. Je m'en fiche, je m'en peut-être en apprendre une sourate. Non. Alors, attends, je suis en train de brûler une soif, mais je ne dis pas laquelle, pour manier. N'importe quoi, n'importe quoi. On se fixe un groupe de 5 personnes, par exemple, et on se voit tous les dimanches, après l'Asr, par exemple, et chaque dimanche, on se dit, on en est où ? T'en es où, Akhi ? J'ai appris Zariyat. Et toi ? J'en suis Al-Qamar. Et toi ? Je suis à Qaf. Ah, tu nous as dépassé. Rendez-vous dimanche prochain. Et c'est reparti. Tanafus. La concurrence, c'est là-dedans qu'il faut se concurrencer. Hein? Combien de fois on a fait des efforts immenses pour réussir à mettre une tête dans un match de foot? Combien de fois on a fait des efforts immenses pour dépasser l'autre sur, à la ligne d'arrivée? Combien de fois? Hein? C'est quoi le meilleur, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce que dit le Coran, mes frères? N'oublions pas que nous parlons des recommandations pour l'étudiant en sciences, dit tafsir. Qu'est-ce dit le Coran? Dit tafsir. Le tafsir, l'exégèse, l'interprétation du Coran, doit être devancée par ce qu'on appelle au sol al-tafsir. Sachez, mes frères, pour ne pas que j'aie à le répéter, que chaque science à son mustalah, à sa terminologie. Lorsque vous lisez dans les livres de tafsir, vous trouverez des termes propres à la science du tafsir. Ces termes, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire, doivent être étudiés dans cette matière qu'on appelle usul fi tafsir. D'ailleurs, ce qu'on appelle al-usul, c'est en gros les lexiques de chaque science. C'est en gros les lexiques de chaque science, c'est-à-dire ça regroupe tous les termes qui sont employés dans ces sciences et qui ont un sens particulier propre à cette science. Et dans le tafsir, on retrouve des termes tels que cela. Al-Nasikh, Al-Mansour, Al-Muhkam, Al-Mutashabih, Al-Makki, Al-Madani, et ainsi de suite. Quand tu vas lire dans Ibn Kathir, il ne va pas te faire une astérisque en bas de la page. Al-Nasikh, en bas, ah, ça veut dire ça. Non. Il faut que tu saches au préalable qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet, comme la Muqaddimah d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou bien, plus facilement, celle de Cheikh Al-Uthaymin, qu'il a lui-même expliqué. Et, d'une pierre deux coups, il a expliqué celle d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. D'ailleurs, je vous conseille, dans ce genre de matière qu'on appelle Al-Usul, les livres de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayh, qui sont magnifiques dans la façon d'expliquer et de rendre simple ce qui est difficile et de rendre abordable ce qui est lointain. Quand tu lis les kutub de Cheikh Al-Uthaymin, tu as l'impression que le ilm il est apporté. Avant de les lire, tu as l'impression que c'est à des années-lumière de toi. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, on a pris une ibara de lui qui disait « Man hurima al-usul, hurima al-wusul. » Man hurima al-usul, celui qui est privé des bases, hurima al-wusul, il est privé de l'arrivée. Comment est-ce que tu veux arriver à la fin de talab al-ilm, même si on a dit qu'il n'y avait pas de fin dans talab al-ilm, si tu n'es pas passé par le début? Et ça, c'est une erreur, malheureusement, que beaucoup d'entre nous commettons. De ne pas apprendre ce qu'on appelle al-usul. Et dans les grands domaines de la science, on a usul fi tafsir, on a usul al-fiqh et on a le mustalah pour le hadith. C'est science qui te définit tous les termes qui sont employés et propres à chacun de ces domaines. Donc avant de passer au livre de tafsir, il est bon de s'instruire dans ce domaine qu'on appelle usul al-tafsir. Et donc les livres que je vous ai donnés comme exemple sont suffisants, inshallah, pour se retrouver dans les livres de tafsir. Ensuite, dans les livres de tafsir, on a beaucoup d'exemples, comme tafsir al-Jalalayn. On l'appelle al-Jalalayn car c'est deux auteurs qui s'appellent tous les deux Jalal ad-Din. Et parmi les deux, on a Suyuti, rahmatullahi alayhi. Ce tafsir, est assez court et comporte des erreurs liées à l'aqidah, notamment dans ta'wil al-asma wa sifat, notamment dans l'interprétation des noms et attributs. C'est d'ailleurs pour cela que les savants divergent sur ce livre. Est-ce qu'il est à conseiller ou non? Certains disent non catégoriquement. Si je me souviens bien, c'était Cheikh Albani qui disait rahmatullah. D'autres le conseillent à des étudiants avancés qui sont capables de déceler ce genre d'erreur, comme Cheikh Al-Uthaymin. Donc, c'est un livre, un tafsir, qu'on trouve en général dans les marges des pages du Coran. Et c'est un tafsir en général qui explique les mots compliqués du Coran. On a, après cela, le tafsir de Cheikh Saadi, rahmatullahi alayhi, qui est considéré comme un des meilleurs tafsirs contemporains dans sa facilité d'expression et sa clarification des sens du Coran. Il n'est pas très long et le lire ne demande pas un effort particulier, mais apporte de nombreuses connaissances et de nombreuses morales. Et bien entendu, il est conseillé par nos grands savants. Après, bien entendu, on a le tafsir le plus célèbre, celui d'Ibn Kathir, rahimahullah, qui est plus ou moins un condensé de celui d'Ibn Jarir, al-Tabari, qui était appelé imam al-Mufassiri. Ibn Jarir, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il a fait un tafsir dans lequel il a réuni tout ce qu'il a trouvé. Mais Ibn Jarir, son tafsir, rahmatullah alayh, il est plus pour les toulab al-ilm al-mutamakkinin, car il a, comme on l'a dit, fait l'effort de regroupement, il a rassemblé tout ce qu'il a trouvé, sans faire référence au sahih min al-da'if. Il n'y a pas de référence dans les rapports, les degrés d'authenticité des textes s'y trouvant. On a dernièrement des versions muhaqqaqa, hein, qui ont été revues par certains savants, notamment je crois qu'il y en a une fois qui a été faite par Cheikh Abdullah Turki, si je ne me trompe pas. Al-Muhim, qui ont fait ce travail de d'épuration. Mais ça reste quand même un tafsir brut. On a au départ la parole de Ibn Jarir al-Tabari qui explique le verset, et après on a les paroles des Sahaba et des Salaf sur l'explication du verset. Mais il est très moufi. Après les tafsirs, il y en a beaucoup. On a celui de Shinqiti rahmatullahi alayhi adwa al-bayan qui se démarque des autres dans le fait qu'il ne fait référence que au verset qui s'explique par d'autres versets. Mais malheureusement, Cheikh Shinqiti rahimahullah mourut avant de le finir. Il mourut avant de le finir et s'arrêta à Juz Qad Sami'a Allahu Qawla Allati. Les six derniers hizb. Et son élève, Muhammad Atiyat Salim, rahimahullah, d'après la recommandation de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Abbad, l'a complété. Donc on trouve maintenant des nosakhs de Adwa al-Bayan qui vont jusqu'à Nas, jusqu'à la fin du Coran. Mais sachez que de Qad Sami'a jusqu'à Surat Nas, c'est pas Shinqiti qui l'a fait. C'est son élève, son plus grand élève, Muhammad Atiyat Salim, rahmatullahi ala al-Jami'a. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à apprendre. Son plus grand élève a su, masha'Allah, compléter l'œuvre de son cheikh. Et c'est un tafsir rempli de trésors et de sciences, mais il n'est pas à la portée de n'importe qui. Il est quand même assez corsé. Après, on a les tafsirs de certains ulamas qui avaient lieu dans les mosquées et qui ont été retranscrits sous forme de livres comme Cheikh Al-Uthaymin, comme on disait tout à l'heure. Walakin, malheureusement, kadhalik, on n'a pas tout le Coran. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, comme Cheikh Mohamed Al-Aman disait de lui, c'était le Shafi'i de cette époque. Parce qu'il avait un pouvoir de déduction développé, mais à un degré très élevé. Regardez maintenant dans le tafsir Surat al-Ma'ida. D'ailleurs, vous remarquez que Cheikh al-Uthaymin, lorsqu'il fait le tafsir du Coran, il donne le sens global du verset, en expliquant les mots plus ou moins compliqués. Et à la fin, il dit toujours, وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. Et on retire de ce verset, وَمِنْ فَوَائِدْ هَذِهِ الْآيَةِ. Et parmi les morales de ce verset, et puis les énumère les unes après les autres. Et bien, dans le tafsir Surat al-Ma'ida, dans le verset de l'Wudu, « Ya ayyuhal ladhina amanu idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum ila akhir al-aya » Il a énuméré plus de 75 fawaïd sur un seul verset. Cheikh Mohamed Aman, rahmatullahi alayhi, quand il a dit que Cheikh al-Uthaymin c'était le Shafi'i à cette époque, c'est pas pour rien. Parce que Shafi'i, rahmatullahi, était connu pour avoir ce pouvoir de déduction. C'est capable d'extraire des textes un nombre incalculable de fawaïd, de moralité, de science. Et كذلك le style de Cheikh al-Uthaymin reste abordable même pour quelqu'un qui n'a pas un niveau extrême en arabe, sauf dans certaines surahs. Ah, مثلا le tafsir de surah al-Kahf de Cheikh al-Uthaymin est plus simple que tafsir surah Yassin de Cheikh al-Uthaymin. Parce qu'on remarque que dans tafsir surah Yassin, Cheikh al-Uthaymin il fait beaucoup d'i'rab. Il fait beaucoup d'analyses grammaticales. Et sachez, pour en revenir à l'importance de la grammaire, que ça aide à comprendre le Coran. Et que des fois, une haraka te change complètement le sens du verset. Et des fois, on a des qira'at différentes, dans lesquelles on a des différences au niveau justement des harakat. Hein? وَزُلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ عِنْدَ حَفْصٍ وحتى يقول الرسول عند ورش والشمس والقمر والنجوم مسخرات عند حفص ومسخرات عند ورش. Pourquoi لان ضما لان كسر علاش اعراب différent donc sens différent. Et donc je disais dans tafsir surat yasin de Cheikh al-Uthaymin, on remarque qu'il insiste beaucoup sur les nuances grammaticales et sur les analyses grammaticales des versets, ce qu'il ne fait pas dans surat Al-Kahf, dans son tafsir. Al-Muhim. Dites-vous que c'est très important d'apprendre, de connaître le sens du Coran. Parce que c'est la mère, c'est la source de toutes les sciences. Tu vas faire du hadith, tu auras besoin du Coran. Tu vas faire du tafsir, tu vas faire du sal du Coran. Tu auras besoin du fiqh, tu feras du fiqh, tu auras besoin du Coran. Il n'y a pas une science dans laquelle tu vas pénétrer sans que tu n'aies besoin au préalable de la bonne compréhension du Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné dans le Coran de méditer sa parole. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Et certes, s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. Coran. Ibn Jarir, rahmatullah, il disait, إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَتَلَذَّذُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ. Ibn Jarir, il disait, rahmatullah, je m'étonne de voir quelqu'un savourer la lecture du Coran alors qu'il ne comprend pas son sens. C'est étonnant quand même. Et c'est bien beau, alhamdoulilah, d'avoir des cours en français traduits qui vous expliquent et vous approchent plus ou moins le sens, mais wallahi, vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Et rien que pour ça, ça devrait être suffisant pour vous motiver pour apprendre l'arabe et donner 2-3 ans pour pouvoir savourer ce de quoi parlait Ibn Jarir, rahmatullahi alayhi. Troisièmement, on passe au fiqh. Al-fiqh, c'est donc la science qui regroupe les adorations, comment elles doivent être appliquées. Al-fiqh, lorsque vous lisez dans les kutub, vous trouvez des marahil pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Nous, on se prend mal en fiqh. parce qu'on est, on n'a aucun niveau en fiqh, et on vient, on dit, non mais l'imam Malik s'est trompé quand il a dit ça. Moi ça m'a toujours tué, quand je vois deux frères en train de naqash sur une mas'ala fiqhiyya, alors que ni l'un ni l'autre ne connaît rien du fiqh. Je vous donne un exemple, tout simple, on est tous passés par là. Mas'alatu ada'i an-nafila fi waqt an-nahy. Le fait de faire une nafila dans les temps où c'est interdit. Nous, on arrive fraîchement et on a lu trois phrases dans un paragraphe et on a mis une croix sur la mas'ala. C'est ma'rouf. Hein? An-nawafil dhawat al-asbab mustathna min an-nahy. Et c'est bon, hop, le khilaf, on a jeté la poubelle. Hein, comme quoi les prières surérogatoires ayant une cause, comme celle qu'on fait en rentrant dans la mosquée à l'heure de l'Asr, ou bien après, ou bien entre le Fajr et le Shuruq, ou bien inda waqt al-Zawal, lorsque c'est le zénith. On prend la parole donc des savants qui disent que les prières surérogatoires ayant une cause sont une exception à l'interdiction globale du hadith. Qui peut me dire ici qui parmi les quatre imams a cette parole-là? D'accord. Là. Le premier. Al-Shafi'i. Al-Shafi'i. Les quatre. Huwa al-awwal qui a eu cette parole-là. Et taba'an, vous allez tous me dire qui voit que waqtun nahi ya'oum jami' al-nawafil. Imam Malik. Tout le monde sait ça. Et on vient. Allez, après Imam Malik. Je t'ai trompé. C'est bon. Vous savez qu'il y a des savants qui disent. La mas'ala est tellement qawiyya, elle est tellement forte, les hadillas sont tellement fortes des deux côtés, qu'il préférait rester devant la porte de la mosquée avant l'asr, pendant le temps où c'est interdit. Il préférait ne pas rentrer, tellement j'étais perplexe. Attends, si je rentre dans un waqt de nahi, dans un moment où c'est interdit, et que je m'assois, j'aurais désobéi à celui qui me dit ne t'assois pas tant que tu n'as pas prié la ka'atayn. Mais si je prie la ka'atayn, j'aurais désobéi à celui qui me dit ne prie pas à ce moment-là. Je rentre pas dans le tafsé. Mais vous croyez franchement que les grands savants du madhhab de l'imam Malik se sont arrêtés à la parole de Shafi'i? Oh, vous nous avez battus. Non, ça marche pas comme ça, l'ilm. Les savants de Shafi'i, Azurmida Adillah, qui les ont poussés à Rajah, le qawl, comme quoi ça ne concerne pas les prières surérogatoires à cause, ayant des causes. Et le malikiya, c'est ça, le munaqasha. Zad tarjih. Le malikiya, ils ont pris les adillah de Shafi'iya et ils y ont répondu avec d'autres adillah. C'est pour ça, mes frères, que l'étude du fiqh, elle est très importante. Parce que premièrement, elle te rappelle le respect que tu dois avoir envers les savants. Tu crois franchement qu'Ibn Abd al-Barr, ou bien Ibn Sahnoun, ou bien Al-Khalil, Al-Qadi Iyad Ahsan, ou غيرهم من أئمة المالكية, tu crois, ils ne sont pas au courant de ces adillas, tu crois? Tu dois avoir un husn al-dhann, une bonne opinion envers les savants. Et surtout, reste à ta place. Tu m'as un ahad. Toi, tu viens, tu sors de. Comment on a dit, c'est 58, c'est ça? Hein? Sors du 59, c'est bon, moi j'ai fini, le même Malik c'est trop peur, c'est fini, on passe à autre chose. Hey, j'ai dit, ça c'est une mas'ala à la sabil al-mithal. Mais quand tu demandes à Sheikh al-Khudayr, hafidahullah, et qu'il passe un quart d'heure à t'expliquer le khilaf, et qu'à la fin il te dit, c'est un khilaf qawi, al-ahsan, si on peut éviter de rentrer à la mosquée à ce moment-là, on évite. Il te dit ça. Et toi tu viens, tu connais rien ni personne. Et tu viens, non, c'est bon, c'est rajih, c'est ça. Il y a une autre chose aussi. C'est pas d'ijtihad. L'ijtihad, c'est pas pour toi. Qala sha'ir, il lam yakun l'aoun min Allah lil-fata, n'am, il lam yakun aoun min Allah lil-fata, fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihaduhu. Il lam yakun aoun min Allah lil-fata, s'il n'y a pas de la part d'Allah une aide envers le jeûne, la première des choses qui le finit, c'est ses ijtihad. C'est ses efforts de réflexion. Ah, moi je pense que c'est lui qui a raison. Ah non, c'est lui qui a raison. Et ça fait rire quand tu arrives dans la mosquée, tu vois des frères en train de naqash sur la mas'ala. T'as dit que ça c'est un kafir ou c'est pas un kafir. Ouais, mais Harry, attends, tu crois Cheikh Albani il a dit ça? Non, mais attends, Cheikh Albani. Mes frères, c'est vous qui allez finir l'histoire là? Hajib Had. Tu leur parles de Moujmel, de Moubayin, de Moukhassas, de Am, de Moutlaq, de Moukayyad. Tu leur parles de Nasir, de Mansour, de. Il dit quoi? Comprends rien, pour du charabia tout ça. Mais il est là en train de te dire, ouais mais akhi, ça se voit que Cheikh Albani a raison. Ou bien ça se voit que Cheikh Al-Athami a raison, ça se voit comment? Ça des lunettes 3D? Comprends pas? Mais il y a un had. Voilà le fiqh, c'est wa si' jiddan. Et nous on se perd, c'est vrai. Min usul ahli sunnati wal jama'a, annahum la yuqallidun. Parmi les usul de ahli sunna wal jama'a, on ne fait pas de taqlid. On n'imite pas aveuglément les gens. Même si c'est des a'lam, des savants. Même si c'est des a'lam. Et comme disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-taqlid bi manzilati al-mayta la yubah illa inda al-darura. Al-taqlid, l'imitation, elle est comme la bête morte. Celle qui a été tuée ou qui est morte sans qu'on l'ait égorgée comme l'islam le demande. On n'y a droit que dans la nécessité. Nahnu la nuqallidu al-ashkhas. Fa inna al-haqqa la yu'rafu bil-rijal. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ. La vérité ne connaît pas par les gens, mais c'est les gens qu'on reconnaît par la vérité. D'accord, on est tous d'accord sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Alors, mais le problème c'est المترتب. Qu'est-ce qui vient après cela? Aksaruna, on dit quoi? Moi je ne suis pas un madhab. Moi je ne suis pas un madhab. Moi je suis le dalil. Ben oui, les madhahib, ils n'ont pas de dalil les madhahib. Bien sûr. Ah, tous les grands ulama du madhhab al-Hanabila ou al-Malikiya ou al-Shafi'i ou al-Ahnaf, non, c'est pas de dalil. Toi, t'es venu et t'as trouvé les dalil. Mais c'est normal, toi. Toi, normalement, en tant que mubtadi, ta première approche avec le madhhab, c'est qawlu al-madhhab. Et ihfadhu hadhihi al-marasib. Ihfadhuha. Apprenez ces étapes à passer quand tu étudies le fiqh. Premièrement, tu suis un madhhab. Et tu suis le qawl du madhhab. Sans les dalil. Quand tu es un étudiant dans le fiqh, tu t'arrêtes pas directement, tu passes pas directement au tarjih. Non, c'est la dernière étape pour Allah ibarak fik. C'est la dernière étape dans le fiqh, le tarjih. Yani, c'est qui a raison, c'est qui a tort. C'est la dernière étape. Comment toi tu viens, tu parles de masail idam, des grandes masail, des grandes questions, et peut-être tu seras dans Bayt al-Wudu, tu sais quoi le faraïd dans les ablutions, tu ne seras pas capable de me les donner. Peut-être. Première étape, tu prends un madhhab et tu apprends du début à la fin le qawl du madhhab. Nous, en général, hein, ceux qui suivent donc les ulama mathalan d'Arabie saoudite, qui sont en général donc hanabila, et donc en général les cours qui nous arrivent concernent des livres de hanabila, du madhhab du même Ahmed. Et en général, un des livres qui est étudié pour les débutant, c'est Zad al-Mustaqni' de l'Hajjawi, qui a fait le Mukhtasar de l'Mukhni' d'Ibn Qudama. Et ça, c'est des noms de savants Hanabi. En général, c'est ce livre-là qu'ils étudient. Chez le Malikiya, ils apprennent le Matn d'Ibn Ashir, ou bien l'Akhdari, ou bien d'autres. Ne croyez pas que les moutons existent dans le Madhhab de l'imam Ahmed. Non. Il y en a aussi dans le madhhab Shafi'i, et aussi dans le madhhab Maliki, et aussi dans le madhhab Hanafi. Al-Muhim, tu apprends le madhhab à la base, le qawl du madhhab. Deuxième étape, tu refais le madhhab, le qawl du madhhab, cette fois accompagné du dalil. Ya rahamukallah, ya abdallah. La deuxième étape, tu reprends le madhhab, cette fois tu l'accompagnes du dalil. Là, on n'apprend pas à des muqallidoun. On apprend à des fuqaha. C'est pas pareil. Les étapes, marahi. Tu reprends le madhhab du début à la fin, et là, tu prends les adillah du madhhab. Et tu verras qu'il y a des adillah. Tu prends l'umda, charhul udda, hein, et tu vas trouver les adillah justement du madhhab al-Hanbali. Il y a plein d'autres kutub qui font référence à cela. Kadalik chez al-Malikiya, kadalik chez al-Ahnaf, kadalik chez al-Shafi'iyya. Moi j'insiste sur le Hanbali parce que on a suivi cette formation et on suit donc les cours des savants. Hein? Troisième étape, ce qu'on appelle al-fiqh al-muqar. Al-fiqh al-muqar, c'est le fiqh comparé. T'as fini avec ton madhab et les dalils de ton madhab, eh ben tu passes au madhab, au qawl des autres madhab. Au qawl des autres madhab. Hein? Et t'as des livres comme al-fiqh al-madhab al-arba'a al-jaziri qui ramène les aqwal du madhab des quatre madhab sans les dalils. Ou bien bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid d'Ibn Rashid ibn Rushd al-Hafid qui lui il ramène les aqwal des quatre madhab avec leurs dalils. Mais dans ces deux kutub il n'y a pas de tarjih mazal. Il dit pas wa rajih ou kala. Yani la parole prépondérante est celle-ci. Là, c'est pas encore. Et justement, ces livres-là, ils ont pour but, entre autres, de t'entraîner au tarjih. De t'entraîner à dire al-rajih qawluhum. Al-rajih, c'est eux qui ont raison. Pourquoi? Kada, kada, kada. Et enfin, dernière étape. Et là, t'es un faqih mujtahid. C'est quand, en fonction de tous les éléments dont tu disposes, tu es capable, après avoir comparé les paroles des savants, en fonction de leur madahib, et des adillah qu'ils ont apportés, des preuves qu'ils ont apportées, c'est quand tu es capable, toujours avec les éléments qu'il faut, c'est pas de ta propre tête. Oh, moi je pense que c'est comme ça. Là, ça marche pas comme ça. Regardez dans Kutub Usul al-Fiqh, Bab al-Mujtahid, ou Ahkam al-Mujtahid, comme dans le Waraqat al-Juwayni, ou bien des Kutub comme cela. À la fin, tu as Ahkam al-Mujtahid. Quand est-ce qu'un savant, c'est un Mujtahid? Quand il a ça, 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 ça et ça. Un résumé. Comprendre et connaître l'arabe. Comprendre et connaître le Coran. Comprendre et connaître les hadiths et leur degré d'authenticité. Hein? Comprendre et connaître les hadiths de chaque madhab. Et les règles du fiqh. Et les règles du fiqh. Et nous, on ne connaît pas les règles du fiqh. Une fois, j'étais avec des frères, et il y en a un qui me dit, « Ya akhi, si quelqu'un il éternue dans la prière, est-ce qu'il dit Alhamdulillah ?» Je lui dis, « Na'am. » J'ai fait sahih muslim, un hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, « Annahu dakhala fi s-salah, fa'atasa rajulan, fa'shammatah, faramahu al-nasu bi-absarihim. » فقال وهو يصلي وافكلتني امياه لماذا ترمون الي بابصاركم فضربوا على افخاذهم اي اسكت فسكت فلما انتهى من الصلاه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه الصلاه لا يصلح فيها من كلام البشر الى اخر ما قال عليه الصلاه والسلام وكل حديث لمعاويه رضي الله عنه يغفر la priere et pendant qu'on priait quelqu'un il a éternué et il a dit alhamdulillah. Lui, lui a répondu, Yarhamukallah, alors qu'il priait. Alors les gens, ils l'ont regardé. Ils ont montré avec leur regard que c'est toi. Mais il n'a pas compris. Il a dit, que ma mère me perd, pourquoi me regardez moi ainsi? Alors ils frappèrent sur leur cuisse avec leurs mains. Et il a compris qu'il fallait se taire. Après la prière, le prophète l'a appelé, lui a dit, la prière est une adoration dans laquelle il ne convient pas ce qu'il y ait une parole humaine. Autre que celle du Coran, du Tesbih, ainsi de suite. Je lui dis ce hadith là. Et je lui dis, al-shahid, le témoin du hadith, c'est quoi? C'est quand le prophète, alayhi salatu wasalam, il a reproché à Muawiyah d'avoir parlé, mais il n'a pas reproché à l'autre d'avoir dit Alhamdulillah dans la prière. Ce qui prouve que ce n'est pas interdit. Alors il y avait un frère qui était présent comme ça, il m'a dit, c'est pas un dalil. Et je lui dis, Akhi, c'est ce que je viens de te dire, c'est Sheikh Al-Uthaymin qui le dit. Ah, ça change tout. Ah bon? Et nous le taqlid qu'on n'a pas le droit de faire, je crois qu'on n'a pas le droit de faire le taqlid. Tu lui ramènes le dalil, il ne le suit pas. Tu lui ramènes le Sheikh, il le suit. On n'a rien compris là. Et il y a aussi un truc qui m'a toujours tué, excusez-moi. C'est quand le frère Yvandor fait par risque de dalil. Définis-moi le dalil. Tu vas me dire ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, et les Sahaba et tout ça. Non, d'accord. Maintenant, est-ce que tu crois que le dalil, est-ce que tu sais me faire la différence entre le dalil et l'istidlal? Le dalil ou le madloul, dilalat al-alfaz. Je peux faire la différence entre ces deux termes-là? Il y a l'argument, le dalil, et l'argumentation, la façon de se servir du dalil. Des fois tu dis un hadith, le frère dit, akhi, c'est quoi le dalil? Ou bien tu dis un hukm, tu dis, qu'est-ce que il dit, c'est quoi le dalil? Tu dis, Allah, rawahu al-bazzar fi sunanihi, Allah, va le chercher. Ou bien, rawahu abdul razzaq, akhrajahu abdul razzaq fi musannafi. Des fois tu leur sors des noms de huffaz, ils ne connaissent même pas. Il est maujoud fi mushaf, afish fi musnad al-shamijin. Ou bien fi musnad al-humaydi. Il y en a plein des ulama qu'on ne connaît pas dans le hadith. Mais toi tu viens, tu fais, et c'est quoi le dalil? On dirait, tu vas lui dire, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que moi je connais tous les dalils, je sais que t'auras raison ou t'auras pas raison. Hajib. Il y a aussi un autre point, c'est que la plupart d'entre nous, on est des muqallid. Le muqallid, c'est celui qui suit la parole de son cheikh sans connaître le dalil. Et le muqallid, il n'a pas le droit de se parler. Ibn Abdelbar, rahimahullah, yanqul al-ijma' ala anna al-muqallid alaysa aliman. Ibn Abdelbar, il ramène le ijma' comme quoi le muqallid, l'imitateur, c'est pas un savant. Même s'il connaît le mourni par cœur. Le mourni, c'est quoi? Hein? J'entends pas? Non! Ahsant, man muallifuhu? Ahsant, Ibn Qudama, Ahsant, Ibn Qudama al-Maqdisi. Al-Mughni, c'est un livre dans le fiqh. C'est l'une des plus grandes encyclopédies dans le fiqh Hanbali. Mais Muqaran, avec les madahib. Et les aqwal. D'Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah. Il y en a, ils le connaissent par cœur. Par cœur. Et pourtant, la tabara que j'ai, il y a 15 volumes. Moi, j'ai pas trois mains. Il y a 15 volumes. Et des volumes épais comme ça. Par cœur. Mais si tu lui dis, qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudama? Qala Ibn Qudama, il te sort tout. Il dit stop. C'est quoi le dalil? C'est pas un adou. C'est pas un adou. Et le muqallid, il n'a pas le droit. La yajouzu lahu an yulzima ghayrahu bima qallada. Le muqallid, il n'a pas le droit d'imposer aux autres ce que lui, il imite. Et c'est ce qu'on fait. Comment d'entre nous, on a pris un qawl d'un alim, une parole d'un savant, sans savoir ce que d'autres disent, sans savoir ce que son dalil, et tu vois, je dis, hé, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Vous voulez un exemple? Bid'iyat al-masbah. Hein? Est-ce que le chapelet, pour lequel, avec lequel on fait tasbih, c'est bid'a ou pas? Et des savants, ils disent oui. Et des savants, ils disent non. Hein? Il y en a qui disent oui, c'est une bid'a. Comme Cheikh Al-Bani, rahmahullah. D'autres qui disent non. Comme Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah. Ou les collines d'Alilou. Et chacun, il a sa preuve. Maintenant, tu connais les dalils de ceux qui disent que c'est une bid'a? En général, non. Et tu connais les dalils de ceux qui disent que c'est pas une bid'a? En général, non. Alors pourquoi tu viens de regarder travers celui qui fait tisbih? Hein? Dans le Sharh al-Mumti' de Cheikh Al-Uthaymin, vous allez dire, je dis beaucoup Cheikh Al-Uthaymin, j'ai plus rien. C'est un de mes préférés. Rahmatullahi alayhi. Dans Sharh al-Mumti', dans le volume 4, si je ne me trompe pas, lorsqu'il parle de salat dans le kitab, salat al-tatawwu', les prières surérogatoires. Il commence avec al-witr et tarawih. Et il parle dans le witr de du'a al-qunut. Hein, comme on fait pendant le tarawih pendant Ramadan. Et dans le madhab, c'est marqué, tu essuies ton visage après avoir fait du'a. Dans le madhab, c'est marqué ça. De l'imam Ahmed. Vous allez me dire, on m'a appris, c'était bid'a. Non. Vous allez me dire, c'est pas de dalil, c'est comme ça. Il y a un hadith. Il est rapporté par Al-Timidad après Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Comme quoi? Pour être quand il laissait les invocations, il s'essuie le visage. On m'aurait menti? Je rappelle le cycliste qui a dit, mon ref. Al-Muhim? Al-Muhim? Maintenant, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, Al-Hadith bijami'i turuqihi da'if. Notre ami a dit le hadith, jami'i turuqihi, dans toutes ses versions, il est da'if. Donc là, yuhtajju bihi, wa la na'mal bihi. On ne s'en sert pas comme argument et on ne le met pas en application. Donc forcément, celui qui voit que le hadith n'est pas sahih, celui qui l'appliquera, il aura fait une bid'ah. Mais, il y a toujours le mais. Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit, al-hadith, bimajmou'i turuqihi, yartaqi ila darajati al-husn. Il dit que le hadith, en regroupant toutes ces turuq, il atteint le degré du hasad. Et toi, tu vas venir dire, Ibn Hajar, tu t'es trompé? Ibn Hajar, que Cheikh Al-Bani a dit, il n'y a pas une mère qui a enfanté quelqu'un comme Ibn Hajar. Bien entendu, après les prophètes et les sahaba et les salaf, bien entendu. Hein? Toi, tu viens du 93, on va laisser le mort tranquille. Oh, Ibn Hajar, il s'est trompé. Bien sûr. Et qu'est-ce que dit Cheikh Al-Uthaymin après tout ça? Il dit, moi je vois l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah comme quoi il est daif le hadith. Et les ilal, les causes, les défauts présents dans le hadith sont trop forts pour pouvoir, pour qu'ils puissent se compenser, pour qu'ils puissent toutes ces versions se compenser. Mais, si tu vois quelqu'un s'essuyer le visage après la douleur, demande-lui, Yahri, pourquoi tu fais ça? Ah, là, je suis nassi de Rouhan, de Saf Al-Hum. Comme la plupart des gens, ils te disent ça. Ah, je lui dis, Yahri Karim, hein, ça c'est un hadith daif, tu ne le fais pas. Maintenant, s'il arrive que tu viens, tu vas voir quelqu'un, tu ne fais pas ça, Yahri. Il dit pourquoi? Ibn Hajar lui rapporte dans Bulugh al-Maram et le Hassan, et c'est le qawl de Mathab al-Imam Ahmad et de Sa'atba'. Tu vas dire quoi? Ouais, mais Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ça, c'est tout? Ça marche pas, des noms. C'est pas avec des noms qu'on fait des niqash. C'est avec des dalils. C'est avec des dalils. Donc, wallah, mes frères, l'étude du fiqh, elle est très très importante. Elle est très importante. Parce qu'elle t'ouvre la poitrine au khilaf. Elle t'ouvre la poitrine au khilaf. Le khilaf qui est maqboul. Qui ne va pas faire des clans et des guerres entre les gens parce qu'ils ont un avis différent. Et il y a une risale là très très bien qui a été écrite par Cheikh Al-Uthaymin qui s'appelle Al-Khilaf. Hein? La divergence. Et qui t'explique la divergence. Et que tu vois même chez les salafs des divergences nombreuses. Qui peut-être toi aujourd'hui à cause d'une de ces divergences là, tu serais capable de taxer d'innovation ton frère. Ou de dire que c'est plus ton frère. Alors qu'avant, ils avaient des avis différents et puis ça ne les dérangeait pas. C'est comme Al-Shafi'i et Ibn Hubayra, rahmatullahi alayhim. Al-Shafi'i voyait que le maqsoud bi qawlihi ta'ala, thalathata quru', c'était thalathu haydat. Ibn Hubayra, il voyait que c'était thalath tathirat. L'axe. Parce que le mot en arabe, il a les deux sens. Lorsque la femme, elle est divorcée, elle doit patienter trois menstrues. Quru', jam'u qar'a. Et le mot qar' en arabe, il a les deux sens qui sont opposés. Azdad. Yani, ça veut soit dire la période de menstrue, soit dire la période de pureté. Et ils ont divergé tous les deux. Toute une journée, ils ont passé à débattre l'un contre l'autre. C'est qui a raison? Et le chef, il disait non. Al-maqsoud minhu al-hayd bidalil qawlihi kada wa kada wa kada wa kada. Il dit non, ça veut dire les menstrues. À cause de tel. Et tu disais non, ce n'est pas ça, ça veut dire ça. Toute la journée, ils ont passé à débattre tous les deux. Le soir, chacun il rentre chez lui et il réfléchit aux paroles de l'autre. Shafi'i, comme ça, il fait. Eh ben, si, c'est vrai, il a raison. Et Ibn Hubayra, chez lui, il fait. Ah ouais, il a raison. Le lendemain, il se retrouve. Ah, kif halak. Wallah, ana ta'ammaltu fi kalamika al-ams. Wajadtu anna sawaba ma'ak. Tu fais, là. Ana ta'ammaltu kalamika bil-ams. Wajadtu anna sawaba ma'ak. Et c'est reparti pour un tour. Et là, ils ont naqash une deuxième fois en défendant la vie de l'autre. Donc, ils sont revenus, ils sont vus le matin, ils ont dit. Ah, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier. J'ai bien réfléchi en rentrant, et finalement t'avais raison. Il fait, mais non, c'est toi t'avais raison, parce que t'as dit telle chose. Oui, mais non, mais tu m'as répondu comme ça. Et après, ils ont recommencé à débattre en défendant chacun la vie de l'autre qu'ils avaient la veille. Agib. Est-ce qu'ils se sont fait la tête? Est-ce qu'ils se sont coupés? Ils ont coupé les liens de parenté, les liens entre eux? Est-ce qu'ils se sont taxés les uns des autres d'innovation? Là, mes frères. Si on ne comprend pas c'est quoi le khilaf dans le fiqh, on n'a rien compris. Il y a des masaïls. Azim, hein? Des questions grandes et grandioses, notamment celles qui touchent à la aqida, à la croyance. Oui, dans certains cas, na'am, ça peut arriver jusqu'à là. Moi, celui qui me dit, Allah, il est partout, je ne suis pas d'accord avec lui et je le combats sur cette croyance. Celui qui me dit la parole d'Allah, elle est créée, je ne suis pas d'accord avec lui et je le combats sur cette croyance. Et s'il s'obstine, na'am, c'est un mubtadi' et il aura ce que méritent les mubtadi'. Quant à celui qui vient et te dit, écoute, akhi, nous, après le recours, on voit qu'on ne pose pas les mains sur le sadr. Akhi, bakhir, inshallah, moi, je vais en poser les mains sur le sadr. T'as un dalil? Non, mais je suis Cheikh Albani. Et toi, t'as un dalil? Non, mais je suis Cheikh Ibn Baz. Alhamdulillah. C'est ça, Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est ça, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ça, inshallah, tu le comprendras en étudiant usul al-fiqh, qawa'id al-fiqh et le fiqh. Walakin tariq tawil. Tariq tawil. Quand tu commences à kitab tahara, et que tu finis Al-Hudud, t'en as des chapitres à voir. Oh là là, Al-Hudud, c'est pas les frontières. Al-Hudud, c'est le had, c'est les punitions. pour les certaines peines, certains péchés qui méritent punition. Il y en a du chemin, mes frères. C'est long. Essayez juste de lire un matn dans un madhhab. Seulement. Du début à la fin. Et vous verrez. Il y en a des choses à étudier, mes frères. Il y en a des choses à étudier, mes frères. Et on n'est pas encore arrivé, mes frères. On est loin de la fin. Très, très loin. On a ensuite al-hadith. Al-hadith. Riwayatan wa dirayatan. N'oublions pas qu'on parlait des tulab ilm. Hal ishta'alat fi qulubikum hadhihi al-himma? Ajibou, law fahimtum. Zahir annakum ma fahimtum. On a parlé de motivation. Est-ce que vous êtes motivés, mes frères? Ça n'a un timide, ça. Les femmes, elles sont de l'autre côté là-bas. C'est elles qui ne parlent pas. Les hommes, ils disent un bon oui. Hein? Non. Et là, vous êtes motivés pour apprendre la science? Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-hadith, il y a deux matières. Riwayatan wa diraya. Riwaya. Dans le rapport, comment le hadith nous est arrivé? Wa diraya, dans la science, qu'est-ce qu'il contient le hadith comme science? Et le hadith, il demande du hifz. Il demande du hifz, de l'apprentissage. Et moi, je ne comprends pas comment un livre comme Al-Arba'in al-Nawawiyya, très peu d'entre nous l'ont appris. Très peu d'entre nous l'ont appris. Comment là, tu peux venir être content de t'asseoir devant Cheikh Al-Abbad, Hafizahullah, dans le Masjid al-Nabawi, qui fait le charh d'un kitab de hadith, et tu ne sais pas c'est quoi l'Arba'in al-Nawawi. On devrait tous connaître l'Arba'in al-Nawawi. Je m'adresse bien entendu au Tullab al-Ilm. Après Nartaqi, comme disait l'ulama, l'ilm, ashraf ma yunal, wa a'la, wa yahtaj ila ma yurtaqa ilayh. La science, c'est ce qu'il y a de plus haut à atteindre. Et forcément, tu as besoin d'une échelle, je vais y arriver, pour monter. Et tu commences avec le début de la science, le petit, avant d'arriver au grand. Tu commences avec Al-Arba'in al-Nawawiyya, ensuite avec Umnat al-Ahkam, ensuite avec Bulugh al-Maram, et après tu t'attaques au Mutawwalat. Est-ce que tu apprends les Hassanides avec? Je veux un conseil d'un quelqu'un qui s'est cassé les dents à essayer et qui n'a pas réussi. Non. Tu vas me dire, n'apprends pas les noms. Si. Quand tu connaîtras les rapporteurs, eh ben tu pourras apprendre les noms. Et après, il y a des façons, il y a des techniques qui facilitent. Maintenant, tu prends Sahih al-Bukhari et tu répertories les hadiths différemment de ce qu'ils sont actuellement dans le livre. Comment? Par rapport aux Hassanides. Tu regardes bien les Hassanides et les chaînes de transmission. Si tu regardes bien, tu vas trouver de nombreux hadiths qui ont la même chaîne de transmission. Les mêmes rapporteurs dans des hadiths différents. Regroupe les hadiths par chaîne de transmission. Yarhamukallah. Tu vas apprendre une chaîne de transmission, tu l'auras apprise, ce sera la même dans 40 hadiths. Tu auras gagné du temps dans 40 hadiths. Wahakada. Et si tu peux, tu fais ça avec Kutub Sitta. Yallah, qui me dit c'est quoi Kutub Sitta? On lève la main. D'accord, c'est quoi les noms? Al-Mu'tariyat d'akhil fi kutub sitta. La. Ya irfi'u man atarad al-kalam fali yarfa yada. Al-akh Nasai. J'ai dit l'akh
Ahmed.
La, Ahmed n'est pas dans kutub sitta. Alors il manque Abu Daoud et لا صحيحين البخاري ومسلم في كتب ستة البخاري ومسلم الترمذي أبو داود ابن ماجه والنسائي كذلك tu as dans ces 6 livres des hadiths qui sont rapportés, tu les trouves dans les 6, regroupe-les, et quand tu l'auras appris là, tu l'auras appris 40 fois. Pourquoi 40 fois? Parce que des fois tu trouves le même hadith plusieurs fois dans des abwaf différents de Bukhari ou de Muslim et ainsi de suite. Ces façons de faire, elles sont un peu difficiles, mais qu'est-ce qu'elles font gagner comme temps? Cheikh Al-Khoda, il a dit, tu peux apprendre Kutub 7 ans, 5 ans. Cheikh Al-Khoda, il a dit, de cette façon, tu peux apprendre Kutub 7 ans en 5 ans. Ilm al-Hadith, c'est du hif. Regardez dans Kutub al-Rijal, dans les livres qui répertorient les rapporteurs, dans Shurut Siha, il y a Dabt. Dabt. L'adalatu, c'est comment il a appris, comment il a retenu, comment il a transmis. Et ça, ça demande une mémoire. Al-Munir, moi, une des choses qui m'a le plus étonné de ma vie que j'ai vu, avec mes yeux, c'est Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, Mazin Nadawi, quand il fait le tahrir du Sanad en live. Ah, c'est impressionnant, Wallah. Foulan, Siqa, Akhraja wa Ashab al-Kutub Sita. Suivant. Foulan, ah, c'est impressionnant, Wallah. Ajib wa gharib. Ce que j'avais imaginé dans ma tête, je l'ai vu en vrai avec Cheikh Al-Abbad. Impressionnant. Bien entendu, on l'a entendu dans des cassettes avec d'autres savants, mais quand tu le vois en vrai, c'est pas pareil, Wallah. Tu dis, wow. Ah, c'est fort. Je crois que c'est l'heure, non? D'ailleurs. Al-Muhim, donc, dans le hadith, on a dit l'apprentissage. Mais ça doit être précédé par quoi? Al-Mustalah. Al-Mustalah, c'est la terminologie du hadith. Regardez des kutub faciles pour les débutants, comme Al-Bayquniya. Un petit nazm d'une trentaine de abiyat qui est à la portée de tout le monde. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyin ursila ila akhiri. Après, on a Nukhbatu al-Fikr, d'Ibn Hajar, qui lui aussi a été sous forme de nazm par Al-Amir al-San'ani, qui s'appelle Qusabu al-Sukkar. Et on a le top. Alfiyat al-Iraqi, une alfiya en 1000 bêtes. Man laha. Si tu apprends 3 bêtes, 3 vers d'un poème de 1000 vers, tu l'apprends en un an à peu près. 3 bêtes par jour. C'est beaucoup? Non. Al-Waqt, mes frères. Le temps. Ne dites pas que vous ne l'avez pas. Dites, je fais n'importe quoi avec. Dites pas, j'ai pas le temps. Al-Muhim, tu apprends ces kutub, tu les étudies, le Bayquniya, avec les shurouh des shuyukh dessus, Nukhbatu al-Fikr avec les shurouh des shuyukh dessus, et ainsi de suite. Et quand tu auras étudié ces livres-là, tu comprendras le sens du sahih, les dhatihi, wa les ghayrihi, wa al-hasan, les dhatihi, wa les ghayrihi, wa al-za'if, wa aqsamuh, al-mursal, wa al-mu'dal, wa al-munqati', et ainsi de suite, al-mawdu'. المعلق والمقطوع والموقوف والمرفوع الى افهم كتروا علم الحديث كاسكو سا veut dire quand on dit darawi ikhtalata fi akhiri. Je vous demande pas, mais posez-vous la question, c'est sûr. Quand tu lis un tahrir de Cheikh Albani maintenant dans un hadith, ce hadith est ضعيف لان فيه جبرون ابن عيسى البلوي قال الحافظ في التقريب سيء الحفظ. C'est des mustalahat, on a besoin pour comprendre ces kalam. C'est des termes qu'on a besoin pour comprendre ce qu'il veut dire le savant dans ces cas-là. Ou le jarh wa ta'dil. On est tous des ulama du jarh wa ta'dil maintenant. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais c'est qui a déjà pris le temps de lire une risala dans les qawa'id de jarh wa ta'dil? Qui peut me donner le nom d'un auteur qui a écrit un livre dans jarh wa ta'dil? Al-Muhim. En général, les Hufa, disons, leurs qawa'id. Et comme le jarh et le ta'dil, c'est un ilm ijtihadi, c'est pas tawqifi. Dans le sens où, les savants, ils ont dû faire des efforts de réflexion pour arriver à déterminer le sens de ces règles. C'est pour ça qu'on trouve des différences chez les savants dans le jarh et le ta'dil. Et c'est pour ça qu'on trouve des savants qui sont sévères dans le jarh et des savants qui sont laxistes dans le ta'dil. Et c'est pour ça qu'il existe des divisions, des catégories de savants qui sont connus pour leur dureté dans le jarh, la critique, et d'autres pour leur laxisme dans l'éloge, et d'autres qui sont mu'tadil. Hein? Comme la Ibara al-Ma'roufa qui disait « La ibrata bi wad' ibn al-Jawzi, wa la tasrih al-Hakim, wa la ijma' al-Mundir. » Il disait « La ibrata bi wad' ibn al-Jawzi. » Ibn al-Jawzi, il a un kitab qui s'appelle Al-Mawdu'at, dans lequel il réunit plein de hadiths qui voient qu'ils sont maudou, yani inventés. Mais le problème, c'est qu'Ibn Jawzi, il avait, yani il faisait ça assez rapidement. À un point où il a répertorié plus de 40 hadiths dans le Mousnad de l'imam Ahmed qui sont maudou pour lui. Et les savants, ils l'ont tous repris là-dessus. Et le Hakim Kadalik, quand il dit que c'est sahih, c'est à revoir. Parce qu'il avait un certain laxisme dans la détermination du hadith comme étant sahih. Des fois, il voit un hadith, il est sahih, alors qu'il est maudou. Al-Mundhiri avait l'habitude de dire qu'il y avait ijma' en telle mas'ala, alors qu'il n'y avait pas ijma' en cette mas'ala. Et il y a des savants qui sont connus comme ça. Comme Ibn Hibban. Ibn Hibban, kana yuwaffiqu al-dha'if wa yudha'ifu al-thiqa. Ibn Hibban, il avait l'habitude de considérer le siqa, le fiable parmi les rapporteurs, comme étant da'if, mais pas tout le temps, certains bien entendu. Comme des fois, il considérait le faible comme étant siqa, yani fiable. Comme Ibn Duraik. Ibn Duraik, min rijal al-Bukhari. On le trouve en Sahih al-Bukhari. Eh bien, Ibn Hibban, il a dit da'if. Et le seul qui l'a wafaq, c'est Ibn Sa'd al-Tabaqat. Et bien entendu, quand il y a un khilaf entre Ibn Hibban et al-Bukhari, c'est le Bukhari qui l'emporte. Mais ce qawa'id nous apprend où ? Dans Kutub al-Rijal, le Mustalahat. Nous, on vient pas marquer Jarh wa Ta'dil. On connaît deux qawa'id dans Jarh wa Ta'dil, ça y est, on a fait le tour de Jarh wa Ta'dil. Non, on n'en connaît qu'une. Al-Jarh al-Mufassal al-Muqaddim ala al-Ta'dil al-Mubham. C'est la seule qawa'id qu'on connaît dans Jarh wa Ta'dil. Est-ce qu'on l'a comprise ? Allahu a'lam. Jarh al-Mufassal, la critique détaillée prévaut sur l'éloge flou, ambigu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que les savants, ils ont dit ? Comment ils ont déterminé le détail de la critique ? Comment ? À partir de quand une critique, elle est considérée comme étant détaillée ? Est-ce que toi, tu connais la qaïda qui dit « Al-ta'dil al-Mufassal muqaddim ala jarh al-mubham » ? Tu la connais la qaïda, toi ? Que l'éloge détaillé prévaut sur la critique floue. Mais cette qaïda n'est pas applicable tout le temps. Ça dépend de qui critique. Quand Imam Ahmad il dit matrouk, ça suffit. Même s'il n'y a même pas de dalil. C'est l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais il faut savoir ces règles-là. Et qu'est-ce qu'il dit Zahabi, rahimahullah, quand il répertorie les huffaz Bayna mutashaddid wa mutasahil wa mu'tadil. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit beaucoup de choses. Voilà qu'une ces choses-là, malheureusement, on ne cherche pas à les comprendre. On ne cherche pas à les connaître. On ne sait même pas qu'elles existent. Nous, on a pris une qaïda, c'est bon, tu connais Jarh wa Ta'dil, tu connais la qaïda. La qaïda est ma'roufa. Tous les frères du Minhaj, ils connaissent cette qaïda. Tous. Sans exception. Tous. Mais il n'y a pas qu'une qaïda dans Jarh wa Ta'dil, quand même, subhanallah. Fait qaïda wahda bas. Des kutub mu'allafa fi hada al-bab. Wa la nazkuru minha illa qaïdatan wahida. Je ne critique pas la règle. Elle est connue, elle est considérée, les savants la matière pratique. Il n'y a pas de problème sur la règle. Eh ben, mais sachez que des fois, ces règles-là, elles sont appliquées et comprises différemment d'un savant à un autre. Et pourquoi toi tu ne dis pas, quand Ibn Hibban, il n'est pas d'accord avec le Bukhari, qu'Ibn Hibban, ben, il faut mettre une croix sur lui. Pourquoi ? Réfléchissez à ces choses-là. N'oubliez pas que Jarh wa Ta'dil, à la base, c'est dans Ilm al-Hadith. N'oubliez pas. Al-Muhim. J'avais encore d'autres choses à dire, mais on le dira plus tard, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la'alli akhti, parce qu'il me reste pas beaucoup, je finirai inshallah ta'ala après la prière peut-être, et en même temps je répondrai aux questions qui sont arrivées, si bien sûr on le peut, inshallah. Barakallahu.